Il y a 30 ans, le rabbi de Lubavitch nous quittait. On est aujourd'hui Guimel Tammuz, c'est le jour de sa Hiloula, c'est le départ du rabbi de ce monde. Et nous sommes en ligne avec Rav Mendy Azimov. Rav Azimov, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
Vous êtes, mais c'est nous qui sommes très honorés, et puis en plus, quel jour pour vous recevoir, parce que, bon, Guimel Tammuz est devenu une grande date hassidique, mais 30e anniversaire, ça fait quand même, c'est quand même une date qui est importante. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous enseigner plein de choses sur le chiffre 3. Mais d'abord, si je vous dis, 30 ans après, quand vous regardez comme ça, je suis sûr que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que le rabbi a apporté finalement? Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Qu'est-ce que ce grand maître a apporté dans le judaïsme?
Le rabbi nous a rapporté quelque chose d'extraordinaire. Surtout que l'action principale du rabbi, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, quand les juifs du monde entier étaient frappés par des difficultés. Et le rabbi, il est venu et il a renforcé, il a donné cette force de pouvoir continuer dans la vie quotidienne, aussi bien dans le côté matériel que dans le côté spirituel. Et ça, c'est par l'intermédiaire de tous les représentants, tous les shluchim et les shluchot, hommes et femmes, qui se donnent dans le monde entier, de ramener le confort, de ramener l'enseignement de la Torah et de Mitzvot dans leur communauté, dans tout le monde entier.
Alors moi, je me suis dit, il va me répondre quelque chose entre ne jamais laisser quelqu'un de côté, par exemple, ou bien toujours s'inscrire dans le concret. De le peu que je sais, moi, je me suis dit, parce que Shivim Panim la Torah, chacun a apporté quelque chose. Je me suis dit, ce qui était une constante que nous, on a connu en étant très loin, évidemment, mais ce que nous, on avait vu, c'était ça. C'était ne jamais laisser personne de côté, ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais aussi toujours être concret. Ne pas rester, comme il disait, vous allez me dire si je parle sous votre contrôle, ne pas rester à côté de Kronaitz, ne pas rester dans les Arba Amot. Qu'est-ce que vous avez envie de me répondre?
Alors, c'est exactement ça. C'est bien aussi que le rabbi, il n'a pas voulu qu'on vienne dans les Damot, dans les quatre coudées de New York, quand les Juifs sont sortis, par exemple, de l'Europe de l'Est en 1947, et les familles sont venues en Europe, il a demandé qu'une certaine partie reste en France, une certaine partie y vont en Israël, une certaine partie en Amérique-Canada. Et à partir de ces 20 familles qui sont restées en France, tout le travail a commencé, et c'est comme ça que mes parents, ils sont restés en France après leur mariage, pour pouvoir développer l'enseignement du rabbi. Le rabbi, il avait aussi un point qui est très important, c'est toujours le sourire et la simcha et le côté positif. Dans les 30 volumes des lettres du rabbi et les enseignements du rabbi, dans n'importe quelle situation une personne se retrouve, aussi bien dans les difficultés spirituelles que matérielles et matérielles que spirituelles, il faut toujours positiver la situation et de prendre du courage pour avancer. Et c'est ça qu'on voit à travers toutes les personnes qui ont eu un contact direct ou indirect avec le rabbi. Ils ont pris cette leçon et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé leur équilibre et les forces pour pouvoir continuer.
Mais moi, je me demande si ce n'est pas aussi l'une des grandes recettes ou grandes explications de la réussite du mouvement Lubavitch en France. Cette joie, quand on va dans un Beit Rabbad, on y rencontre une atmosphère qu'on a envie de rencontrer, et ça a beaucoup plu aux Juifs séfarades, qui sont maintenant la majorité de notre communauté, mais pas seulement. Je me demande si ce côté judaïsme souriant, judaïsme strict hein, sur les principes, c'est la halakha, mais bon, les Lubavitch, quoi, tels qu'on les connaît, t'arrives un peu en retard, on sait très bien que t'es pas le plus religieux de la choule, viens, assis-toi, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est pas l'une des grandes réussites, donc ce côté bienveillant, débonnaire, est-ce que c'est pas un peu l'une des grandes réussites de la rencontre très réussie entre les Lubavitch et les Juifs de France?
Alors, non seulement que je confirme qu'est-ce que vous dites, mais je vais même un petit peu me prolonger dessus. C'est qu'une fois, dans un congrès en Amérique, On dit qu'il y a un chaliach qui a raconté qu'il a pris un fidèle, un juif dans la rue qu'il connaissait, et lui a dit, écoute, viens à la synagogue à 11h, c'est le moment le plus important. Et il venait tous les Shabbats, pendant la lecture, juste avant la lecture de la Torah, parce que c'est la partie la plus importante samedi matin. Après quelques mois, le rabbin il lui dit, tu sais, maintenant on vient à 10h30. Parce que c'est très important d'être là à Baruch Shama, au début de la prière. Alors, le juif, il dit, je ne comprends pas, il y a 6 mois, tu m'as dit que la partie la plus importante, c'est la lecture de la Torah. Et maintenant, tu me dis qu'il faut venir une demi-heure plus tôt, sinon ce n'est pas bien. Alors, il a répondu, il a dit, tu verras un jour, tu viendras avant moi à la synagogue. Ça veut dire que c'est comme ça que le rabbi, il a voulu. Le rabbi, il a voulu qu'on développe le vrai sens du judaïsme. D'un juif, que ça, c'est le point fort de son identité. Mon père, il a reçu comme enseignement du rabbi qu'un juif, il veut tout faire. Seulement, il faut l'aider à voir la grandeur de Torah et de mitzvot et comment les coutumes, la tradition, les choses qui sont importantes. Et c'est ça qui fait qu'avec 30 ans que le rabbi n'est pas là, physiquement, l'aspiration, elle continue parce que c'est tout lié au côté spirituel de notre identité.
Alors, je vais raconter une histoire qu'on m'a racontée au 17. Et il paraît que c'est une histoire vraie. Que dans une choule, il y avait un gars, il lisait mal, mais il lisait vraiment mal, quoi. Alors, donc, il était repris toutes les 5 minutes. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit, mais fais un effort quand même, tu vois bien qu'il y a un problème. Et le gars lui répond... Oui, mais quand il crie pour rectifier l'erreur, il crie avec un tel cœur que j'ai pas le courage. Ça me fait plaisir de voir qu'ils sortent leur cœur comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement... Il y a un tel humour juif dans cette réponse. Peut-être même qu'il est un peu sérieux, le gars. Que je me suis dit, tu vois, voilà, j'ai entendu ça dans un Beit Rabat, ça m'étonne pas.
Et vous voyez, je veux dire aussi, il y a un point qui est important et important de savoir que le travail de Lubavitch, que même les personnes qui sont religieuses par tradition, par famille, etc., le concept de Lubavitch, c'est qu'on suit les personnes, les familles, depuis le début de leur vie jusqu'à la fin de la vie. Je m'explique. Ça veut dire que quand on s'occupe d'une famille à la synagogue, c'est pas à la synagogue qu'on a fait connaissance. On s'est occupé de la Brit Mila, on s'est occupé de la bar mitzvah des enfants, on s'est occupé de Talmud Torah, de la cantine kasher. On a fait un suivi vraiment comme le médecin de famille. Ça veut dire que spirituellement, chaque Lubavitch, il a une connaissance avec des familles autour de lui, qu'ils soient shliach ou pas shliach. Il donne cette qualité-là. Certaines familles, c'est pour les fêtes, certaines familles, c'est pour Pessah, et certaines familles, c'est dans le quotidien, et surtout à travers le Talmud Torah et les cantines kasher, que ça, c'est un travail énorme, énorme, qui se développe dans le quotidien.
Alors, il faut savoir que le rabbi était aussi un révolutionnaire, sous plein d'aspects. Hein, toujours, je parle sous votre contrôle. Par exemple, le chapeau, qu'on appelle le chapeau républicain, par exemple, par exemple les vidéos. Les vidéos. Aujourd'hui, tout le monde se dit, mais le vidéo, c'est la base. À l'époque, c'était la révolution, etc., etc. Plein de choses comme ça qui ont fait, ben, je sais pas, même avoir montré un mouvement qui est multinational. C'était un révolutionnaire. Mais ce qu'il a apporté, me semble-t-il, c'est aussi accompagner les Juifs aux États-Unis en leur disant, faites attention, on a déjà connu les Eldorado. Vous allez croire que cet Eldorado américain, c'est la fin des mitzvot, faites attention, c'est un piège qu'on connaît.
Alors ça rejoint exactement ce que le rabbi précédent, quand il est arrivé pour s'installer en Amérique en 1940, et le lendemain qu'il est arrivé, il a fait la première réunion pour créer la yeshiva Lubavitch à New York. Et il y avait des donateurs ou des rabbins qui sont venus le voir et dit, vous savez... L'Amérique, c'est pas comme ça, c'est pas l'Europe de l'Est, c'est pas un endroit où Varsovie, c'est pas un endroit qu'il y a comme ça la religion qui se balade. Alors le rabbi précédent, il a dit un slogan, et ce slogan-là, on le retient jusqu'aujourd'hui. Alors, je vais d'abord le dire en yiddish, après je vais le traduire. America is not anders. L'Amérique n'est pas différent ce qui voudrait dire qu'il n'est pas différent que l'Europe de l'Est ou des autres pays où on a vécu le judaïsme ouvertement. Et ça, c'était le slogan du rabbi précédent qu'il a dit à lendemain qu'il est arrivé en Amérique en 1940. Et c'est resté comme ça le slogan jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un vous dit on doit se moderniser, on doit vivre le quotidien différemment, on le dit, rappelle-toi qu'est-ce que le rabbi précédent il a dit en arrivant en Amérique, en sortant du bateau.
Parce que les Juifs, à travers le monde, j'explique pour ceux qui n'y pensent pas forcément, c'est pas à vous que je dis ça. Bon, par exemple, les Juifs ont cru au communisme.
C'est ça.
Voilà, on pensait même que venir en Israël, bah, c'est pareil que par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport en Amérique. Bon, bah ok, maintenant ça y est, etc., etc. Il y avait toute une série de choses. Alors maintenant, Rav, il y a une question que je suis certain que vous êtes posée, et c'est peut-être la question la plus importante de notre entretien de ce soir. Parce que vous savez peut-être des choses, et vous allez pouvoir nous répondre. D'après vous, après le 7 octobre, le rabbi de Lubavitch, que vous avez connu personnellement, il aurait dit, et que votre père connaissait très bien, il aurait dit quoi ?
Alors, vous savez, malheureusement, on n'a pas eu, malheureusement, on a, grâce à Dieu, on n'a pas eu les mêmes cas qu'on a eu le 7 octobre, que ça, c'est depuis la création du monde, je ne pense pas qu'on a une situation pareille, mais on a eu des cas similaires que l'État d'Israël, que Eretz Israël a été mis en situation difficile. Et ça, c'était pendant la guerre de Six Jours, pendant la guerre de Kippour, pendant la guerre du Golfe et pendant la guerre de Liban. Et quand on regarde dans les textes que le rabbi nous a laissés, les discours, les lettres, les correspondances, on voit une seule chose, qu'on doit prendre du courage et continuer. Il y a des dizaines de lettres, comme le rabbi l'explique, la grandeur de ces soldats qui donnent leur vie pour le peuple juif, pour Israël, pour la protection d'Israël. Et le rabbi, il insiste, le courage qu'on doit avoir pour ces familles-là qu'ils ont donné leurs proches pour sacrifier leur vie pour Israël. Quand on voit les lettres, les discours du rabbi, on a la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on doit prendre la force et de continuer et de faire en sorte que notre territoire soit bien protégé. Et ça fait partie des slogans qu'on dit en hébreu, Shleimot HaTorah, Shleimot HaAretz et Shleimot HaAm. Ça veut dire qu'il faut faire attention que protéger le territoire, protéger le peuple et protéger la Torah. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre le paquet pour que ça se passe aussi bien matériellement que spirituellement. Et que le rabbi disait toujours que les miracles qu'on voit dans le quotidien, tous les jours, que ce soit en Israël ou à l'extérieur d'Israël, c'est parce que Dieu nous protège. Et que parfois, il y a des difficultés. Et bien, malheureusement, parfois, c'est des choses qui arrivent. Mais dans le sens où il faut toujours prendre le courage de pouvoir avancer. Le rabbi, il était très clair dans des situations pareilles, que ce soit en Israël ou que ce soit dans les autres endroits du monde, qu'il faut continuer et prendre le courage et la force de pouvoir continuer. Et que chaque chose qui se passe, qu'il y a, grâce à Dieu, que toutes les choses qui sont passées avec l'Iran qui a envoyé les missiles et tout ça, c'était des miracles ouverts. Et quand c'était la guerre du Golfe, en 91, si je ne me trompe pas, le rabbi il avait parlé clairement que tous les jours, on voit des miracles et que ça continue comme ça et qu'on demande à Dieu qu'on puisse avoir la paix et le calme en Israël et que tous les citoyens dans le monde entier puissent avoir du calme.
Alors, on se souvient évidemment toujours des catastrophes et jamais des miracles. Donc, par exemple, l'attaque des missiles iraniens avec les Israéliens qui regardent à la télé en disant « Ah ben, il reste encore 15 minutes avant que les missiles arrivent. » Et qu'il y a 100% de réussite pour les arrêter. Même les plus grands experts disent « Non, mais il y a toujours un qui passe. » D'ailleurs, à Dieu ne plaise, mais c'est ce qu'on voit dans le Nord. Il y a toujours un qui passe. Il n'y a pas un qui est passé. Et les gens regardaient à la télé comme ça. Et ils disaient « Ah, encore 10 minutes. » Moi, je sais, on avait nos correspondants en Israël. Ils disaient « Oui, les missiles arrivent dans 10 minutes, là. » Et 100% ont été arrêtés. Sur ce que vous disiez sur l'effort, Rav, il y a une dame qui est venue nous voir, elle a fait son alia de Saint-Mandé, donc en région parisienne, il y a 7 ans. Son fils est décédé le 7 octobre. Soldat, il est décédé les armes à la main le 7 octobre. Tout le monde est parti en permission et lui, il était là. Il s'est battu, les terroristes sont arrivés à 6h30 du matin, il est mort à 13h. Il s'est battu 6h. Et cette femme a fait son alia pour être tranquille. Et c'est là-bas qu'elle perd son fils. Eh bien, le 1er août, son deuxième fils va partir à l'armée. Et elle a le droit de refuser. Parce que ça, on appelle ça Mishpachashkula, elle a le droit de dire non, je veux pas, il va pas à l'armée. Mais elle le fait d'abord, évidemment, pour tout le monde. Mais elle le fait même pour son fils. C'est son fils qui lui a dit, maman, laisse-moi partir. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que je viens de dire?
Alors écoutez, c'est énormément de courage. On ne peut que le souhaiter que si Dieu veut, il va pouvoir remonter cette difficulté-là et que la mère, elle aura beaucoup de courage. Et je suis aussi au courant qu'il y a des familles, une famille que je connais dans mon quartier qu'ils ont fait l'aliyah il y a quelques années. Ils ont deux enfants et les deux, ils se retrouvent aujourd'hui à l'armée. Et les deux, ils se retrouvent dans des situations très importantes, en difficulté. Et chaque fois, quand je parle avec les parents, je les encourage. Et la même chose aussi à la maman qu'elle venait vous voir, c'est de l'encourager, que la décision qu'elle a prise soit une décision que Dieu veut l'accompagner, que tout se passe bien et qu'il va revenir en bonne santé. Le rabbi, chaque fois qu'il recevait des gens qui venaient pour demander des bénédictions, il leur souhaitait. Il leur disait le verset de Talmud qui a écrit qu'en mettant les téfilines, à ce moment-là, les nations, ils auront peur. Et il dit que le fait qu'on met les téfilines, à ce moment-là, les ennemis, ils ont peur. Et c'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, mais on y croit parce que c'est écrit comme ça dans la Guémara.
Vous avez remarqué que dans votre réponse sur ma question sur le 7 octobre, vous n'avez pas parlé des temps messianiques?
Écoutez, je ne suis pas prophète pour pouvoir dire qu'est-ce que c'est le temps messianique ou pas. On a déjà vécu plusieurs fois, on pouvait dire facilement aussi que le temps messianique, c'était le Covid. On voit que le Covid, le monde entier s'est arrêté en une semaine, en une ou deux semaines, le monde entier d'un bout à l'autre s'est arrêté. Je pense que c'était aussi à une période messianique. On est toujours sur l'inspiration que tous les jours, c'est la période messianique. Le Rabbi, il a écrit dans une lettre. Un chassid qui s'appelait Rav Avraham Pariz, après la disparition du rabbi précédent, et que le rabbi devait devenir rabbi officiellement, le rabbi lui écrit à ce chassid, Avraham Pariz, il a dit, je ne sais pas, l'exil n'est pas bon ni pour vous et ni pour moi, mais une chose c'est sûre, que chaque jour qui passe, on est un jour plus proche. C'est une belle phrase.
Magnifique,
C'est-à-dire,
magnifique.
chaque jour qui passe, on ne sait pas quand ça va venir, mais une chose est sûre que ça va venir bientôt. Je voudrais quand même, avant de passer à la prochaine question, c'est de répéter une phrase que j'ai entendue de mon oncle Ravadin Shteinzaltseven Israël. C'est mon oncle, l'Emaïk Nazimov. Et quelques années après la disparition du rabbi, je lui dis, comment tu expliques le rôle du rabbi après et avant, après qu'il soit plus là? Et avant, quel est le. Il m'a dit, c'est identique. L'influence du rabbi est restée identique après sa disparition qu'avant. Il a écrit un livre, My Rabbi, mon rabbi, et il m'a expliqué longuement. Quelque chose que je voudrais partager avec vous,
C'est un privilège. Partager quelques lignes de Hadith Senzal, c'est que du bonheur.
merci. Alors, il m'a dit comme ça. Chaque maître qui nous a quittés dans l'histoire, à part le propre histoire de ce maître, comme le Beth Yosef, le Rambam, tous les Rashi, tous les grands maîtres qu'ils ont vécu à l'époque, ou les saints qu'ils habitaient dans les pays d'Afrique du Nord, qu'est-ce qui reste d'aujourd'hui? Il reste les écrits. En général, dans le judaïsme, la transmission d'un maître à ses élèves, c'est l'écrit. C'est pas sa yeshiva, elle est déjà détruite, c'est pas ses élèves. En premier rang, ils sont plus là. La seule chose qui reste, c'est les écrits. On trouve des livres, des vieux maîtres, mais que on n'étudie pas. Le Maïmonide, le Rashi, tout ça, c'est qu'est-ce qui reste parmi nous aujourd'hui, leur enseignement, c'est les écrits. Le Rabbi, c'est pas uniquement ses écrits. C'est toutes ses actions, toutes ses réflexions, toutes ses pensées, ils sont actifs aujourd'hui comme avant. Surtout pour nous, vous et moi. Qu'on a connu la génération avant 30 ans et qu'on connaît aujourd'hui, on peut dire que l'action et le travail, c'est pas seulement les enseignements du rabbi qui sont là, c'est toute l'activité, la jeunesse. C'est ça qui est le point fort. Des enfants qui n'ont pas connu le rabbi et qui sont bien nés après 1994. Ils vivent autant que nous quand on a connu le rabbi, ici pas plus. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est ça que le rabbi m'a expliqué, que faut voir que la force du rabbi, on la fait continuer comme le Talmud dit, que quand quelqu'un il a des enfants et les enfants ils restent actifs, à ce moment-là, la personne « Mazaro Bachayim, Afu Bachayim ». Et ça, on le voit dans l'histoire du peuple juif, quelque chose chez le rabbi qu'on ne voit pas ailleurs.
Alors, ce sera ma dernière question, mais d'abord, oui, c'est très frappant. Quand on va à Lag BaOmer, au pique-nique qui est organisé par les Lubavitch, c'est très frappant de voir des jeunes de 15 ans. Qu'est-ce que tu feras, toi, après ? Ben, moi, je serai chaliar. C'est très, très impressionnant. Des gens qui, alors pour le coup, là, n'ont pas connu les années que nous avons connues. Et d'ailleurs, on se souvient du jour de la disparition du rabbi, la radio était assiégée de coups de fil et il n'y a pas de portable. Les gens, ils, à l'aéroport, ils appelaient, j'imagine qu'ils devaient chercher une cabine téléphonique. C'était un tremblement de terre. Mais donc, voilà ma question. Quand il y a eu de très, très nombreuses discussions, il y a eu des discussions d'abord déjà au moment de la création de la Chassidoute. Et puis après, il y a eu de très grandes discussions durant toute la vie du rabbi, il y a eu des discussions. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et non seulement il n'y en a plus, mais j'ai presque envie de dire, un jour, il y a un responsable, un intellectuel, l'un de ceux qui dirigent ce très beau site qui s'appelle Akadem, il me dit, mais aujourd'hui, tout le monde est Lubavitch. Et j'ai souri parce que c'est très vrai. Est-ce que ce n'est pas ça votre leçon à vous? Pour ce 30e anniversaire, c'est que finalement cette pensée est devenue universelle pour le judaïsme, ce qui est d'ailleurs, disent les maîtres, de nouveau je prends un risque de parler devant vous, et donc si vous me dites non monsieur Abouaf, si vous avez mal cité les choses, vous allez-y, mais on dit effectivement que le signe du Emet, pour tous les grands, le signe du Emet, c'est ça, c'est que ça reste. Et que même si que, on voit après quoi, on voit donc par exemple aujourd'hui au bout de 30 ans, le Emet c'est ça, c'est quand c'est devenu unanime. Quelle est votre réponse à ma dernière question?
Alors si j'ai bien compris, la dernière question c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde reconnaît et dans le passé on s'était réfléchi.
Par exemple, vous l'avez très bien reformulé. Elle n'était pas exactement comme ça, mais je prends votre j'accepte.
Non, alors reposez la question après.
Non, c'était beaucoup plus un compliment, c'était beaucoup plus un chevar ce que je vous disais. Mais qui suis-je d'ailleurs pour faire des chevarim? Mais c'est le signe du Emet. Quand ça s'est passé dans la difficulté, dans les débats, dans le, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le fait de porter un costume, ça n'a pas été accepté par tout le monde. Il y a plein de choses comme ça. Le fait de passer à la radio, ça n'était pas accepté par tout le monde. Et après, il y a des détails à l'Afrique que je connais moins bien. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est accepté, que
rabbi,
tout le monde est Lubavitch.
Il était un visionnaire, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Alors, c'est au-delà d'un signe d'Ahmed, c'est un signe de projet, de travail. Quand on trouve une situation dans le monde, alors il y a toujours différents avis comment s'installer, comment faire les projets, comment s'occuper, par quoi commencer. Voilà, le juste mot, c'est de savoir par quoi commencer. Et le rabbi, lui-même, dans ses enseignements, ce qu'il a demandé qu'on fasse en 1990, il n'a pas demandé jusqu'à 1990, il attendait que le monde entier soit prêt, et soit prêt à recevoir les demandes de mitzvot, à étudier le Rambam, à faire des fêtes de Lag BaOmer. Ça veut dire que c'était avec un projet, avec un avancement, et on peut dire qu'aujourd'hui, le rabbi, il a touché à tous les niveaux matériels, aussi bien que spirituels. Quand il y avait la possibilité de faire un cours de Torah sur la radio, le rabbi, il a demandé qu'on utilise la radio pour donner un cours de Torah. Quand il y avait une possibilité de mettre dans la presse les allumages de Hanouka ou de Shabbat, le rabbi, il a demandé de faire ça. Chaque fois qu'il y avait une possibilité d'utiliser un outil matériel, le rabbi, il a demandé qu'on utilise cet outil-là pour le judaïsme.
Rav Asimov, c'était un véritable plaisir, non seulement un privilège, mais un plaisir. Puis en plus, on était vraiment le jour où il fallait avoir cette conversation, quand il y avait eu cette... puisqu'on parlait, tiens, par exemple, de discussion et tout. Le Rabbi, il a eu un moment, dans un des passages de sa vie, c'était de dire que les livres qui avaient été écrits par les maîtres avant lui et par sa famille ne lui appartenaient pas à lui, mais appartenaient au Chassidim. Et donc, il y a eu un procès qui est très très connu, hein, je ne suis pas en train de raconter des choses très érudites. Il y a un procès, et donc à un moment du procès, le juge doit convoquer le rabbi pour l'entendre. Et le juge, qui n'est pas juif du tout, hein, dit « Mais on ne convoque pas un roi !» Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce sera une belle conclusion pour notre conversation, non ?
Oui, merci beaucoup. Juste me permets de rajouter, les auditeurs, ils risquent de poser la question. Qu'est-ce qu'on pense sur la situation en France actuellement? Alors, je voudrais juste rajouter que pour les chassidim, la France, ça fait partie des pays que le rabbi a vécu pendant 7 ans. Et quand le rabbi a vécu dans un pays, tous les pays que le rabbi a vécu, il a amené une bénédiction pour tout, pour l'éternel. Mmh. Alors, c'est valable pour la France comme pour d'autres pays. Alors, on souhaite toutes les bonnes choses pour tous les habitants en France et qu'on aura tous du calme. Et on pourra continuer à éduquer nos enfants dans la meilleure situation qu'on peut. Merci beaucoup à vous.
Et on reconnaît bien le leader Lubavitch. Hein. Je veux finir cet entretien avec de l'apaisement, avec du nachat ruach, de la fedoute. On voit bien l'enseignement. Lubavitch, je vous parle évidemment avec un beau sourire. Rav Mendy Asimov, vous êtes le leader du mouvement Lubavitch à Paris et en Ile-de-France notamment, mais pas que. Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci beaucoup.